RFI. Grand reportage.
Il y a un an éclatait la guerre au Soudan. Deux généraux s'affrontent pour le pouvoir. Aujourd'hui, le conflit a provoqué le déplacement de près de 8,5 millions de personnes. Près d'1,5 million sont des réfugiés partis en Égypte, au Tchad, en Éthiopie ou encore au Soudan du Sud. C'est la plus importante crise de personnes déplacées au monde, dont l'impact régional est colossal. Soudan, la vie en suspens des réfugiés de Rank, c'est un grand reportage de Gaël Alex.
Bienvenue à Joda, on va se garer là.
Donc ça, c'est la frontière avec le Soudan.
Oui, de l'autre côté, c'est le Soudan. Nous sommes ici et là-bas, c'est le Soudan.
Oh là là, I can't wait. Vous êtes très contente d'être arrivée.
Oui, je suis excitée de tout vous montrer. Là-bas, c'est là qu'ils recensent les arrivées. Puis là-bas, on fait la recherche de vulnérabilité. Si les réfugiés sont âgés ou handicapés, alors on leur donne un jeton et ils rentrent là pour qu'on s'occupe d'eux.
Joda, sur la frontière avec le Soudan. Une guérite, quelques douaniers endormis et une corde marquent l'entrée sur le territoire du Soudan du Sud. Cette frontière a pourtant été bien disputée lors des années de guerre civile qui ont mené à la partition du Soudan en 2012. Aujourd'hui, à Joda, il y a du sable et des tentes du HCR, le bureau pour les réfugiés des Nations Unies. Près de 600 000 d'entre eux sont déjà passés par là pour fuir la guerre au Soudan.
My name is Awadogul Chok. I'm just working here, receiving the returnees and refugees come from Sudan to North Sudan.
Je m'appelle Aouda Golcho, je travaille ici pour HEDC sous la tutelle du HCR. J'accueille les réfugiés et les retournés qui viennent du Soudan. Ce que nous faisons ici, ce sont de simples statistiques. Nous comptons ceux qui viennent du Soudan pour aller au Soudan du Sud et nous regardons s'ils sont réfugiés ou retournés.
Alors on a beaucoup de colonnes là sur cette fiche que vous montrez, vous pouvez m'expliquer à quoi elles correspondent ?
Ça, c'est le nombre des membres du foyer. Puis le chef du foyer, est-ce un homme ou une femme ? Ça, c'est le nombre d'enfants. Et là, leur nationalité. Cette colonne, c'est la raison de leur départ. La guerre, le manque de nourriture et toutes sortes de mauvaises situations.
Vous faites une différence entre les réfugiés et les retournés. Pourquoi ?
Les retournés, ce sont des Sud-Soudanais, alors que les réfugiés sont des Soudanais demandeurs d'asile au Soudan du Sud.
Et alors, ils viennent d'où, là, les derniers qui sont arrivés ?
Certains viennent de Khartoum, d'autres de Rabak et d'autres endroits encore.
Est-ce que beaucoup de monde arrive en ce moment ?
Il en arrive tous les jours. La plupart arrivent tôt le matin ou en soirée.
Quand ils arrivent, ils sont dans quel état, les réfugiés et les retournés ?
Ils arrivent dans un état de fatigue terrible, avec beaucoup de problèmes. Certains sont très maigres, d'autres blessés, d'autres encore sont malades.
Je m'appelle Leila Koul et je travaille pour le HCR. Ici, on cherche à savoir si les réfugiés sont atteints de choléra. S'ils le sont et que nous pouvons les traiter tout de suite, nous le faisons. Sinon, nous les envoyons à Médecins Sans Frontières. D'abord, on regarde les yeux, sont-ils rouges ? Puis les lèvres, sont-elles déshydratées ? Puis nous leur demandons combien de fois ils vont aux toilettes par jour. Si c'est fréquemment, nous analysons leur sel.
Et vous en avez beaucoup des cas de choléra ?
Oui, au début, on voyait beaucoup de cas de choléra, mais aujourd'hui, il y en a moins.
C'est à Rabak que Michael a d'abord trouvé refuge. Cet étudiant de 27 ans a mis près d'un an à atteindre le Soudan du Sud.
Je suis parti de Khartoum dès le mois d'avril de l'année dernière. Je suis d'abord allé m'installer à Rabak, puis je suis venu ici, à la frontière de Joda, au Soudan du Sud.
Pourquoi finalement vous avez décidé de quitter Rebek ?
Parce que les combats ont atteint Rabak, et puis il n'y a plus d'école à Rabak, il n'y a pas de travail non plus. J'ai donc décidé de partir pour ici.
Durant votre périple, avez-vous croisé l'armée soudanaise ou les FSR ?
Oui, on les a croisés. Ils nous ont arrêtés sur la route et nous ont empêchés de poursuivre notre chemin. Ils nous ont demandé de descendre de nos véhicules et de repartir d'où l'on venait. On leur a dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour y retourner. On a réussi à les convaincre de nous laisser repartir. Et puis, ils nous ont autorisés à rejoindre la frontière.
Et c'était où, ça ?
Le premier checkpoint était à Rabak, quand ils nous ont demandé de faire marche arrière. Puis on les a aussi croisés à El Jebelin. C'était l'armée. Les militaires n'ont pas confiance en leurs propres citoyens. Ils redoutent qu'ils rejoignent les forces de soutien rapide.
Maintenant, c'est un soulagement pour vous d'être ici ?
Oui, c'est un soulagement. J'ai le sentiment d'être à la maison maintenant.
Michael, comme tous les arrivés du jour, ne restera que quelques heures à Jodha. Après leur enregistrement et les premiers soins, réfugiés et retournés sont emmenés au centre de transit de Renk, 60 km plus au sud. La route se fait en car ou en camion. C'est une immense ligne droite qui longe le Nil blanc en plein désert.
Jusqu'à maintenant, nous avons plus de 600 000 réfugiés et retournés arrivés du Soudan au Soudan du Sud. Le plus gros pourcentage arrive par la frontière de Jodha et la ville de Renk.
Sylva Alkebe est la coordinatrice des agences des Nations Unies à Renk.
La plupart sont des Sud-Soudanais qui rentrent chez eux, bien que ces derniers mois, depuis décembre dernier, on observe une augmentation du nombre de réfugiés. Aujourd'hui, environ 1500 réfugiés et retournés, en moyenne, arrivent par jour à la frontière.
Et ensuite, une fois que ces réfugiés et ces retournés arrivent à Renk, qu'est-ce qui se passe ?
Au début, les deux reçoivent de l'aide humanitaire d'urgence de différentes ONG partenaires. Mais comme ici, ce n'est qu'un centre de transit, cette aide humanitaire ne couvre les besoins que de quelques jours seulement. Après cela, les réfugiés doivent être relocalisés à Maban, l'un des camps de réfugiés existants.
Est-ce que les réfugiés souhaitent aller à Maban ?
En général, non. Les réfugiés ne veulent pas aller à Maban pour différentes raisons. La plupart veulent rester à proximité du Soudan. Ils espèrent que la paix reviendra bientôt et qu'ils pourront repartir. Certains espèrent encore retrouver des membres de leur famille. Une grande partie de ces réfugiés viennent de centres urbains comme Khartoum. Ils sont éduqués, donc s'installer dans un camp de réfugiés est dur à envisager pour eux. C'est un vrai défi pour ces réfugiés d'aller à Maban.
Comment vous faites pour les convaincre ?
On essaie de leur expliquer qu'ils recevront plus d'aide à Maban. Renk n'est qu'un centre de transit avec une assistance humanitaire très limitée. Alors qu'à Maban, il y a un système d'éducation pour le primaire et le secondaire. Ils recevront de l'argent liquide tous les mois pour de la nourriture et bénéficieront d'infrastructures de santé. Aussi, les réfugiés qui y arrivent par leurs propres moyens sont libres d'aller où ils veulent.
Aujourd'hui, le centre de transit de Renk accueille 5 fois plus de réfugiés et retournés que sa capacité initiale. Il y a donc urgence à déplacer ces populations, d'autant que la saison des pluies approche. Mais un dialogue de sourds s'est instauré entre les humanitaires et les réfugiés. Abdourahman Amsaleh est un des leaders communautaires du centre.
Ici, nous avons retrouvé la paix que nous avons perdue. Nous avons la sécurité et une protection. Mais nous avons encore besoin de beaucoup de choses.
Vous pouvez nous dire, justement, ces besoins, quels sont-ils ?
Nous avons besoin de savoir si nous pouvons rester ici ou s'ils vont nous emmener dans un autre camp. Ils disent que nous devons aller à Maban. Si nous pouvions rester ici, il nous faut l'éducation pour les enfants, la santé, les choses basiques comme la nourriture. Nous avons besoin de rester près de chez nous. Si la paix revient, nous devons pouvoir repartir.
Nous devons être près de notre pays. Si la paix revient, nous devons repartir.
La plupart des gens n'ont pas envie d'aller à Mabane. Pourquoi ?
Oui, ils refusent d'y aller. Les départs pour Mabane ont démarré en novembre. Et ceux qui y sont allés sont très vite revenus. Ils ont expliqué que ce n'était pas un bon endroit. Il n'y a pas de sécurité, pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'éducation. Et ces informations ont fait leur chemin dans nos esprits. Les ONG essaient de convaincre les réfugiés de partir, mais ils refusent. Aujourd'hui encore, le dialogue est difficile entre les organisations et les réfugiés. Ici, il n'y a rien et ils ne nous donnent rien. Nous sommes prêts à repartir dans notre pays. Même s'il y a la guerre, ça ne peut pas être pire que Mabane.
Unless there's a war, it is not bad than Mabane.
Je m'appelle Inchira Aiza, j'ai 24 ans et je viens de Khartoum. Mon père est ingénieur et ma mère avait sa propre entreprise de parfums. Moi, j'étudiais la protection animale à l'université de Khartoum.
Comment est-ce que vous imaginez votre futur aujourd'hui ?
Sombre. Ici, il est très difficile de s'adapter à l'environnement, de trouver un travail. C'est un camp, et un camp, ce n'est pas la maison. Cet endroit n'est pas bon pour l'accès aux soins, pour les personnes âgées. Mon frère est un adolescent et sans éducation, il a déjà oublié beaucoup de ce qu'il a appris.
Est-ce qu'on vous a proposé d'aller à Mabane ?
Je ne pense pas aller à Mabane. Mon cousin y est allé, il en est revenu et nous a dit que la situation là-bas était très dure.
Qu'est-ce que vous redoutez à Mabane ?
Mabane, à mes yeux, semble être une prison. Si vous venez de la ville et que vous allez dans un camp qui se trouve perdu dans la campagne, loin de tout, c'est dur de vous y installer. Vous ne pouvez pas vous adapter. C'est loin de tous vos besoins, votre hôpital, votre éducation, votre emploi, votre vie quotidienne. Les urbains sont culturellement très différents des villageois.
Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous attend là-bas.
Bien sûr, il n'y a rien qui me donne envie de penser à Mabane. Là-bas, il n'y a pas d'université, ça s'arrête au collège. Et dans ma famille, nous sommes 4 à étudier à l'université.
Tout autre est le sort réservé aux retournés, ces Sud-Soudanais qui vivaient au Soudan. Le Soudan du Sud est le plus jeune pays au monde. Son histoire est marquée par la guerre, d'abord celle de l'indépendance acquise en 2012, puis une guerre civile de 2013 à 2020. Certains de ces retournés ont déjà fui à plusieurs reprises des conflits, d'autres sont nés de l'autre côté de la frontière et n'ont jamais mis un pied au Soudan du Sud.
Là, je suis en train de faire la queue. J'attends mon tour pour pouvoir partir au port fluvial. Je n'ai que ce sac avec moi. À l'intérieur, il n'y a que des vêtements. C'est tout ce que j'ai pu sauver. La situation là-bas est vraiment terrible.
Là-bas, c'est Khartoum, la capitale soudanaise où Tidjani Saleh, étudiant de 20 ans, est né. Considéré comme un retourné, il est éligible au programme de rapatriement décidé par les autorités sud-soudanaises et soutenu par l'Organisation internationale des migrations. Tidjani n'a connu que Khartoum et s'apprête à partir pour Waou, dans l'ouest du Soudan du Sud.
En partant, on a tout laissé derrière nous. Notre maison, nos biens et même certains membres de notre famille. D'autres nous attendent là-bas, à Waou.
Quels sont vos projets là-bas ?
Je vais essayer de reprendre mes études. Je voudrais étudier l'anglais maintenant, car à Khartoum, j'ai déjà appris l'arabe.
Est-ce que vous envisagez, si la paix revient, de retourner au Soudan ?
Oui, je retournerai au Soudan, mais seulement pour rendre visite aux membres de ma famille qui sont restés là-bas.
Je m'appelle Isaac Fogan, je travaille pour l'OIM. Je coordonne les opérations de rapatriement des retournés venus du Soudan. Ici, nous sommes au port fluvial, sur les berges du Nil Blanc, d'où nous transportons les retournés par bateau vers Malakal. Nous les emmenons du centre de transit au port par bus pour les plus vulnérables et par camion avec leurs bagages pour les valides. Une fois au port, nous leur donnons des bons qui font office de tickets de transport. Ils montent sur les bateaux et nous les emmenons à Malakal.
Et après Malakal, qu'est-ce qui se passe ?
Depuis Malakal, les gens sont ensuite envoyés vers leur destination finale par avion ou encore par bateau.
Ce système de rapatriement, est-ce que c'est une volonté des autorités sud-soudanaises ?
Oui, c'est ce qu'elles voulaient, car elles ne veulent pas qu'il y ait plus de camps de réfugiés. La décision se fait sur la base du volontariat. Chaque Sud-Soudanais est libre d'aller où il veut, là où il sera le plus à l'aise.
Est-ce que les retournés sont assez volontaires pour participer à ce programme ?
En vérité, tout le monde n'est pas disposé à partir pour différentes raisons. Certains préfèrent rester à Renk pour suivre ce qui se passe. Si la situation venait à se calmer, ils essaieraient de retourner au Soudan. Mais la plupart sont disposés à partir. Les gens arrivent en nombre.
Certaines personnes ont passé plus de temps au Soudan qu'au Soudan du Sud. Leur nationalité, elle n'est quasiment que sur le papier. Où vont ces personnes-là ?
Par exemple, durant leur enregistrement, ils ont l'occasion de s'expliquer. Ils peuvent nous indiquer d'où ils viennent et où ils souhaiteraient aller. Ils sont enregistrés en fonction de leur état ou de leur localité d'origine. Au Soudan du Sud, un Sud-Soudanais est libre d'aller où il veut. Et l'OIM est mandaté pour les emmener jusqu'à leur destination finale.
Je m'appelle Shana Wejok, j'ai 33 ans et je viens d'Omdurman vers Khartoum. Je me rends à Djouba et là aujourd'hui je pars pour Malakal.
Pourquoi est-ce que vous allez à Djouba ?
Nous sommes habitués à vivre en ville. C'est pour l'éducation des enfants que nous avons décidé d'aller à Djouba, pour pouvoir leur permettre de reprendre l'école.
Et là-bas, est-ce que vous avez de la famille qui vous attend ? Vous savez où vous allez dormir, vivre ?
Non, je n'ai pas de domicile là-bas, mais j'ai des proches qui pourront m'accueillir. Et puis après quelques temps, je chercherai du travail. Je ne peux pas rester assise sans rien faire.
Comment vous imaginez votre avenir et surtout, où est-ce que vous l'imaginez ?
Je nous imagine à Djouba. J'ai des enfants qui sont encore petits, il faut qu'ils aillent à l'école, donc ce sera Djouba. Il faudra que je trouve rapidement un travail, la vie en ville est très chère, il faut beaucoup d'argent. Je me moque du type d'emploi que je trouverai, je suis prête à faire n'importe quoi.
À Khartoum, vous aviez un emploi ?
À Khartoum, j'étais femme de ménage. Il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire car j'étais déjà réfugiée là-bas. J'ai fui la guerre civile ici.
Le Soudan, c'est terminé pour vous ?
Ce qu'on a vécu à Khartoum, ça n'a pas été facile. Ça n'était pas anodin. On espère que la situation va s'améliorer là-bas. Je ne pense pas vraiment y retourner, mais qui sait ce qui nous attend ?
Assis sur une natte, Abdourahman Amsalé regarde le camion des retournés partir. Le leader communautaire n'a pas l'intention de quitter Renk malgré l'incertitude du retour.
Quand la guerre démarre, personne ne sait quand elle finira, mais nous espérons que ce sera au plus vite.
Qu'est-ce que vous pensez des deux généraux qui se combattent ?
Les deux ont tort, ce sont les responsables de cette guerre. Ils devront en répondre. Ils tuent, ils détruisent, ils volent. Toutes les choses terribles qui arrivent au Soudan sont de leur fait. C'est mal. La direction qu'ils prennent est la mauvaise. Vous tuez votre nation, vous tuez votre peuple. Comment pouvez-vous imaginer gouverner le Soudan ? Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Come back and see that you want to control Sudan. It's wrong way.
Soudan, la vie en suspens des réfugiés de Renk, un grand reportage de Gaël Lalex, réalisation Tiffany Menta.